20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, c'est ce soir que débute à la Philharmonie de Paris la 11e Biennale de Quatuor à cordes qui se tiendra jusqu'au 21 janvier. Une manifestation qui célébrera les 50 ans du Quatuor Chronos, accueillera les plus illustres quatuors internationaux comme les Modigliani qui étaient à notre micro mercredi, qui mettra également à l'honneur la nouvelle génération et puis les luthiers, car se tiendra de mercredi à dimanche la 2e édition du concours international de lutherie. Nous en parlerons justement ce soir avec Raphaël Pidoux, le président du jury, et Jean-Philippe Échard, conservateur au Musée de la Musique, partenaire du concours. Avant cela, quelques nouvelles récentes du monde musical. Franz Welser-Möst ne renouvellera pas son contrat de directeur musical de l'orchestre de Cleveland, comme il vient de l'annoncer, un poste qu'il occupe depuis 2002. En septembre dernier, le chef autrichien avait déjà annoncé faire une pause dans sa carrière pour soigner son cancer. Alors si son état de santé s'est considérablement amélioré, c'est la volonté de ne pas faire la saison de trop. Il aura 67 ans à la fin de son contrat en 2027, qui a guidé son choix. Philippe Gau vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Victorien Van Oosten vient quant à lui d'être nommé directeur musical de l'Opéra de Toulon. Pour sa prise de fonction, le jeune chef français dirigera Thaïs de Massenet en version de concert les 23 et 25 janvier au Palais des Congrès Neptune de Toulon. Des concertos de Bach, lundi soir à Versailles, dans le salon d'Hercule du château, mais aussi mardi soir à la salle Gaveau. Des concertos pour 1, 2 et 3 violons avec Théotime Langlois de Swart en soliste et à la tête de l'orchestre de l'Opéra Royal de Versailles. Théotime Langlois de Swart qui joue donc Bach en concert et Vivaldi au disque, puisque son enregistrement des concertos pour violon de Vivaldi avec le consort sortira très prochainement chez Harmonia Mundi.
Laure Maison sur Radio Classique.
Et nous en arrivons au dernier épisode de notre feuilleton de la semaine consacré à la fabrication des décors à l'Opéra National de Paris. Après avoir visité les ateliers techniques qui construisent les squelettes et ceux qui réalisent les éléments visuels, nous voici sur le lieu de leur assemblage final en compagnie d'Alexandre Gaillard, le responsable des ateliers de décors de l'Opéra, qui nous a éclairé à cette occasion sur la démarche éco-responsable qu'il développe avec ses équipes.
Ici, nous nous trouvons sur l'aire de montage des ateliers de décors. C'est l'endroit où l'on monte pour la première fois les décors qui ont été construits et peints au sein des ateliers de décors. Donc on a une surface qui représente à peu près 400 mètres carrés avec à peu près 11 mètres sous plafond, sous les ponts roulants. Et ici, nous assemblons tous les décors qui jouent sur la scène de Bastille et sur la scène du Palais de Garnier. Et d'ici, une fois que les décors sont montés, on a des équipes de machinistes qui viennent prendre les décors, soit les démonter pour les remettre en remorque et les amener à Garnier, soit les faire transiter directement par le grand couloir qui accède directement à l'arrière-scène de Bastille. Alors les ateliers de décors, nous sommes assez conscients de l'impact que l'on peut avoir on va dire sur l'écologie en général. En fait, moi je suis depuis 4 ans responsable des ateliers de décors. J'ai très vite orienté ma responsabilité, ma direction des ateliers vers du développement durable. La réflexion que j'ai amenée, c'est de réfléchir au réemploi des éléments que l'on ne voit pas. Donc nous sommes impliqués dans le collectif 17h25 avec nos collègues du Châtelet, de l'Opéra Lyon, du Festival d'Aix et de la Monnaie dans un projet de développement de structures standards. Mais en parallèle de ça et un peu en avance, les ateliers de décors se sont déjà employés à développer des éléments standards. Après, bêtement, sur l'approvisionnement des matières, on essaie de privilégier aujourd'hui plutôt les bois un peu plus locaux, tels que le peuplier, le pin, le sapin. Après, on a différentes réflexions suivant les ateliers. On a au Matao Composite, on a commencé à utiliser des résines biosourcées. Alors, elles sont biosourcées à hauteur de 25%, je crois. Ça n'est qu'un petit élément, mais on réfléchit aussi au remplacement de la fibre de verre, enfin différentes choses. En sculpture, on utilise beaucoup de polystyrène. En fait, j'ai essayé de pousser les sculpteurs à réinventer leur métier. Aujourd'hui, bêtement, on prend de la matière, on taille dedans. Dans le passé, ce qui se faisait pas mal, il y a de ça, je vais dire 50 ans, dans les décors classiques, italiens à l'autre, plutôt que tailler dans de la matière, en fait, on formait, ce qui fait qu'on consommait moins de matière, et on consommait surtout des matières un peu moins, on va dire, impactantes pour l'environnement, telles que du grillage, du plâtre, des choses comme ça. Et donc, j'essaie de mener une réflexion au niveau de l'atelier sculpture pour que les sculpteurs se réapproprient leur métier et réinventent un peu la façon de faire. Donc c'est une démarche qui est en cours. Pour l'instant, je le dis, on n'a pas abouti à la solution qui fonctionne bien. Les anciens modèles de fabrication de décors, en fait, n'offrent pas la tenue, la résistance suffisante pour ce qu'on demande à nos décors, notamment lors du stockage et du réemploi.
Marianne Crébassa dans un air de Don Quichotte de Jules Massenet, l'une des productions les plus attendues de la saison de l'Opéra de Paris, dont les décors sont en construction en ce moment dans les ateliers, avec notamment de superbes sculptures. Un spectacle à découvrir au mois de mai.
L'Or Maison sur Radio Classique.
D'un côté, l'association Talent et Violoncelle, qui depuis plus d'une douzaine d'années soutient les luthiers d'aujourd'hui en faisant construire de nouveaux instruments destinés aux jeunes musiciens. Et de l'autre, le Musée de la Musique, qui incarne le patrimoine à travers l'une des plus grandes collections d'instruments au monde. Talent et Violoncelle et le Musée de la Musique qui se sont associés pour créer un concours international de lutherie, dont la deuxième édition se tiendra ces prochains jours à la Philharmonie de Paris et sera dédiée au violon. Alors nous allons en parler ce soir avec Raphaël Pidoux, président du concours et directeur artistique de Talent et Violoncelle, et puis Jean-Philippe Échard, conservateur au Musée de la Musique. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors c'est vrai que votre association, elle donne lieu à un concours qui finalement, et on va l'évoquer avec vous ce soir, célèbre la lutherie contemporaine, mais aussi rend hommage à celle du passé. C'est important justement de ne pas opposer le présent et le passé, de ne pas opposer la modernité et l'héritage, Raphaël.
Tout à fait, et puis il n'y a rien à voir en fait entre un instrument qui a 200 ans, 300 ans et un qui vient d'être construit, même si c'est sur le même modèle du passé entre guillemets, mais le son n'a rien à voir. Et souvent moi je dis, quand on joue sur un instrument d'époque, en fait ça veut pas dire grand chose, parce que à l'époque les instruments sonnaient différemment et on peut plus revenir en arrière. Je serais intéressé de savoir ce que Jean-Philippe en pense. Et voilà, donc ce concours est très exaltant pour nous, on est très fiers de travailler avec la Philharmonie, le Musée de la Musique, et je pense que c'est un événement qui avait sa place et qui la prend.
Alors justement, cette rencontre entre le passé et le futur, elle est importante pour vous aussi?
Elle est très importante, et c'est pour cela d'ailleurs que les instruments du concours, l'ensemble des instruments qui vont concourir, vont se mélanger en quelque sorte pendant quelques jours, de mercredi à dimanche, dans les salles du Musée de la Musique. C'est-à-dire qu'il y aura 90 instruments neufs au milieu de la collection nationale, des instruments, on va dire, très patrimoniaux, des clavecins, des harpes, il y a des œuvres d'art également, aussi des grands violons, dits grands violons, mais il y aura aussi 90 nouveaux grands violons, en quelque sorte, au milieu de la collection.
Mais c'est vrai qu'en même temps, les instruments du passé, on pense au Stradivarius notamment, font rêver le public, font rêver les musiciens aussi. Comment les convaincre aujourd'hui que la lutherie contemporaine, elle est tout aussi exceptionnelle ?
Mais je pense que c'est comme une forêt. Alors on imagine une forêt d'instruments, vous voyez, donc on va scier les vieux arbres et puis on en replante d'autres. C'est important de voir ça comme une transmission, en fait, des valeurs, puisque je crois que, ça c'est Jean-Philippe qui sait mieux que moi, la règle d'or de Stradivarius pour construire un instrument, ben elle n'a jamais été inégalée, en fait. On construit encore sur ces valeurs comme un pont et toujours construit avec quatre pieds, etc. Enfin, je pense que c'est très important de voir ça comme cela, et puis c'est le lieu idéal pour faire cela.
Et puis, les luthiers d'aujourd'hui sont sur les épaules de géants. Vous mentionniez des noms, le nom très célèbre de Stradivarius, par exemple. Mais aussi, c'est un artisanat aujourd'hui extrêmement dynamique. Il y a plusieurs centaines de luthiers en France. Il y en a des milliers dans le monde. Et cela représente, on va dire, le côté patrimoine immatériel, la notion de patrimoine immatériel, extrêmement vivante et dynamique au niveau mondial. Et là, on réunit, ce n'est pas une confrontation entre les anciens et les modernes, c'est vraiment un lien, ce que tu soulignais, Raphaël, comme la transmission, et la philharmonie, le musée, peut être le lien où ces choses se font.
On renoue aussi avec le passé, puisque à l'époque, passaient à l'atelier de Stradivarius à Crémone des violonistes illustres comme Corelli ou d'autres, et ils voulaient tous essayer le nouvel instrument de Stradivarius. Et je pense que maintenant, c'est pareil, tous les grands musiciens veulent un instrument contemporain, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de luthiers. Les progrès sont incroyables depuis 40 ans, on va dire, dans la lutherie contemporaine, et c'est ça qu'on célèbre avec ce concours.
Alors pour ce concours, ou plutôt ces concours, puisqu'on va l'évoquer, il y a deux concours, vous avez fait appel à un jury qui rassemble des luthiers et des violonistes, c'est ça? Comment l'avez-vous pensé, ce jury?
L'idée, c'est effectivement de créer un concours pour les musiciens et pour les luthiers, et en même temps. Donc c'est très important d'avoir un instrument parfait sur le plan de la construction, sur le plan du respect des épaisseurs, sur le plan... il faut que ce soit d'équerre, il faut que ce soit parfaitement bien fait, mais alors le son. Et donc, on a pensé que trois jurys luthiers et trois jurys de violonistes pouvaient faire l'affaire. Et c'est ce qu'on avait fait jadis avec le violoncelle il y a 2 ans. Et ça, voilà, on a eu un grand succès là-dessus. Alors, il y a quelquefois les membres du jury qui sont pas d'accord entre eux. C'est normal. C'est l'affaire du concours. Mais il ressort toujours quelque chose de très, très fructueux.
Alors, parmi les membres du jury, Jean-Jacques Kantorov, avec qui nous allons passer un petit moment tout de suite. Jean-Jacques Kantorov, que l'on écoute ici avec son fils Alexandre Kantorov dans une sonate d'André Gédalge. Thank you. extrait de la première sonate pour violon et piano d'André Gédalge avec Jean-Jacques Kantorov au violon et Alexandre Kantorov au piano. Jean-Jacques Kantorov qui est donc membre du jury du concours international de lutherie dédié cette année au violon qui se tiendra du 17 au 21 janvier au Musée de la Musique et à la Philharmonie de Paris. Et un concours que l'on évoque ce soir sur Radio Classique avec Raphaël Pidoux et Jean-Philippe Échard. Alors ce n'est pas un mais deux concours, l'un dédié aux professionnels, talents d'aujourd'hui, et le second à la jeunesse, aux élèves des écoles de lutherie, ce qui fait de cet événement un concours absolument unique. C'est ce qui le distingue des autres grands concours internationaux, ces deux dimensions.
Alors effectivement, il y a ce concours, on pourrait dire, assez conventionnel. Il y a des concours internationaux de lutherie un peu dans différents endroits du monde. Et donc il y a ce concours conventionnel qui s'adresse à des luthiers professionnels déjà établis, qui ont leur propre atelier, réputation, clientèle, etc. Et nous avons souhaité, dans cet esprit de transmission que soulignait Raphaël, également faire de ce moment une proposition vers les écoles de lutherie. Parce qu'il y a effectivement des écoles, des formations qui existent de par le monde pour former des luthiers. Et on s'est dit que cette dimension dans le cours de l'apprentissage, de l'éducation et de l'enseignement du métier, des premières bases du métier en quelque sorte, pouvait être l'occasion d'une forme d'olympiade inter-école dans un esprit de rencontre plutôt que de compétition forcenée. L'idée, c'est la rencontre et elle se fait autour d'un instrument spécifique de la collection du musée.
Voilà, alors cet instrument, on va en parler, c'est le sarrasate, c'est un instrument d'Antonio Stradivari que vous connaissez particulièrement bien, Jean-Philippe Échard, puisque oui. Vous lui avez consacré un ouvrage. Alors est-ce que vous pourriez peut-être nous éclairer sur cet instrument, un instrument qui a appartenu à deux des plus grands géants du violon, qu'ont été Paganini et Pablo de Sarrasate.
C'est ça, on a choisi cet instrument parce qu'en fait, 2024, c'est également le tricentenaire de la fabrication de ce violon. Il a été fait en 1724 par Stradivari à Cremone. Donc aujourd'hui, 2024, cette année, on commence finalement à célébrer son tricentenaire grâce à ce concours. Il fait partie des collections du musée. C'est Pablo de Sarrasate, effectivement, qui en a fait un don à sa mort, c'est un legs pour la nation française. Et cet instrument, il est à la fois très important dans son état d'authenticité, si l'on veut, par rapport à ce que comment Stradivari l'avait construit, mais également il a été choisi par deux des plus grands virtuoses du 19e, Paganini, comme vous le disiez. Il l'a choisi en 1817, il est tombé dessus à Milan, il venait de déposer chez son éditeur les manuscrits des 24 Caprices, et puis et il tombe sur ce violon, il l'essaye, il le choisit. Donc ça c'est un épisode de l'histoire, et puis l'autre épisode c'est dans les années 1860, Pablo de Sarrasate qui trouve ce violon chez Vuillaume, le luthier Vuillaume parisien, et qui lui-même le sélectionne.
Et quelles sont ces caractéristiques visuelles et acoustiques que devront d'ailleurs reproduire ces jeunes élèves luthiers à l'occasion de ce concours ?
Alors, je peux vous répondre, mais seulement en partie, en quelque sorte. Les caractéristiques, on va dire, géométriques, visuelles, alors, c'est des ouïes à la fois typique des ouïes de Stradivari, mais relativement écartées. C'est-à-dire que l'espace entre les deux ouïes, là où repose le chevalet, avec une zone très centrale de la respiration, de la vibration de l'instrument, est particulièrement large par rapport à d'autres grands violons de Stradivari. Il semble aussi avoir des voûtes, la sculpture de la table et du fond, particulièrement massive, on pourrait dire, costaud. Et ça, c'est ce qu'on voit par l'examen, la géométrie, l'étude. On a même fait une tomographie des rayons X grâce à nos collègues du Muséum d'Histoire Naturelle pour avoir l'intégralité de la géométrie de ce violon. Et on a fourni aux écoles candidates ces données géométriques très précises pour qu'ils les suivent. Quant à l'acoustique, c'est en fait les 10 instruments que les écoles vont nous envoyer, parce qu'il y aura 10 instruments des jeunes luthiers qui concourront. Eh bien, c'est peut-être, et probablement sous les archets des musiciens qui les testeront, que nous saurons quelque chose de cela.
Oui, puisque c'est un instrument qu'on ne joue plus depuis des décennies, depuis plus d'un siècle. On a une trace sonore de cet instrument, ce sarrasate, mais alors qui date de 1904, joué par Pablo de Sarrasate. Ça crachouille un peu, mais c'est très émouvant. Thank you. Voilà un enregistrement qui a 120 ans, qui date de 1904, particulièrement émouvant. Pablo de Sarasate en personne qui joue sur son violon le Sarasate. Un petit extrait de ses Zigeunerweiser, ses airs bohémiens. Ce violon, le Sarasate, que de jeunes élèves des écoles de lutherie devront reproduire, ont déjà reproduit à l'occasion de ce concours international de lutherie que l'on évoque ce soir sur Radio Classique. Donc il y a le concours Jeunes Talents, dont le principe est de reproduire un instrument, et puis le concours talent d'aujourd'hui, Raphaël Pidoux. Là, le cahier des charges est complètement libre hein, pour les luthiers.
Ah oui, mais c'est ça qui est joyeux. Et d'ailleurs, on a beaucoup de succès avec ce concours-là, il faut quand même le dire.
Combien de luthiers d'ailleurs participent au concours cette année?
Je crois qu'on est à plus de 90 ou quelque chose comme ça.
Il y aura plus de 90 instruments.
Du monde entier.
Des luthiers qui viennent de toute la planète. Et non, c'est vraiment... Voilà, Paris devait renouer avec un concours de lutherie international et c'est fait en deux éditions. C'est déjà un grand succès. Je voulais revenir sur les instruments. On ne connaît pas la fin de vie d'un instrument. C'est-à-dire qu'un immeuble, par exemple, on investit dans un immeuble et on se dit que bon, il va falloir quand même le rénover, puis un jour il peut s'écrouler, on ne sait pas. Et un instrument de musique, on ne connaît pas la durée de la fin de vie d'un instrument. Et je dois dire que tous ces instruments qui vont être construits, qui vont être mis dans l'exposition au sein des collections, c'est très touchant parce que c'est des instruments qui vont traverser encore plusieurs siècles. Et je voulais aussi dire que les musiciens, sans l'aide de mécènes, ne peuvent plus jouer sur des instruments du 18e, 19e, 17e siècle. Et c'est vrai que on offre aussi à toute la jeunesse et tous les musiciens vivants la possibilité de se confronter sur des instruments contemporains qui ont énormément de qualité.
Voilà. Et qui sont accessibles.
Et qui sont accessibles
au niveau... Voilà, ils sont pas obligés de passer forcément par un mécène.
Voilà.
Alors, quels sont les critères de jugement pour un instrument? Il y a l'aspect visuel, il y a la sonorité. D'ailleurs, ils seront joués derrière un paravent. Ils seront joués par des membres... Alors, d'abord par des membres du jury, et ensuite, à l'occasion des finales, des demi-finales et finales, par des musiciens de l'Orchestre de Paris, derrière un paravent.
Oui, parce qu'on ne veut pas que le vernis ou la beauté de l'instrument nous influence visuellement.
Oui, mais ça compte aussi, j'imagine.
Alors, ça compte aussi. Dans la première épreuve, les violonistes du jury vont pouvoir jouer les instruments et les noter. Donc là, forcément, il y aura une comparaison qui sera faite, etc. Ça fait partie du jeu, hein, des concours. Et puis, les luthiers vont, eux, juger de leur aspect, comme je vous disais tout à l'heure, de leur état et des respects des règles de l'art, en fait, dans la construction d'un instrument. Et puis ensuite, pour la demi-finale, il y aura donc dans une salle qui est magnifique, la SR1, la grande salle de répétition de la Philharmonie, eh bien, il y aura test acoustique grandeur nature avec le public. On attend 300-400 personnes. Et derrière, paravent, les instruments seront joués par les magnifiques violonistes de l'Orchestre de Paris qui se prêtent au jeu avec grand plaisir. Ils ont choisi des extraits musicaux qui vont être magnifiques. Vraiment, ça va être un grand spectacle. Et on va devoir, nous, membres du jury... Alors, je dis nous, moi je suis président de jury, hein, très modestement, mais je ne note pas. Je vérifie que tout se passe bien et je suis impressionné par tout ce qui va se passer dans nos oreilles. Et ça demande une concentration exceptionnelle. Et tantôt, l'instrument va sonner bien sous les doigts d'un violoniste. Tantôt, il va sonner moins bien sous les doigts d'un autre et vice-versa. Et il va falloir qu'on fasse une moyenne de tous ces avis-là. Jean-Philippe ?
Ce qui est très enthousiasmant, c'est effectivement qu'il y a de nouveau un concours de lutherie à Paris, que ça se réunisse dans cette dynamique qui réunit Raphaël, la Philharmonie, la Philharmonie de Paris, et bien sûr, au sein de la Philharmonie, nos collègues de l'Orchestre de Paris. J'aimerais en fait les citer, si c'est d'accord. Aishishi Jiwa, Gilles Henry, Andrei Larka, Pascal Mellet et Nicolas Nikolov, qui vont faire chanter ces violons en compétition pendant les demi-finales et finales, donc le samedi 20, dimanche 21, en public. Et pour le public, c'est aussi une expérience d'écoute assez fantastique et rare.
D'autant que le public est invité à voter.
Exactement. Et il y aura aussi un prix des violonistes de l'Orchestre de Paris, voilà, qui sera attribué à un des violons.
Donc finalement, un concours de lutherie, ce sont autant de frissons et de suspense qu'un concours de violon, qu'un concours de piano. Ce sont les mêmes types d'émotions parce que le public raffole de ce genre d'événement.
Oui, et peut-être n'a pas l'habitude d'entendre beaucoup d'instruments comme ça à comparer. Donc c'est ce que souhaitait faire découvrir à son public la Philharmonie.
Voilà, donc rendez-vous pour le public les 20 et 21 janvier, donc samedi et dimanche, 20 et 21 janvier à la Philharmonie de Paris. Quant à vous, Jean-Philippe Échard et Raphaël Pidoux, vous allez découvrir les les instruments, tous les instruments, dès mercredi prochain. Et vous en sélectionnez combien pour les finales,
demi-finales? On en sélectionne quelques-uns, je n'ai pas le nombre exact. On peut dire aussi que le mercredi après-midi et pendant le week-end, la plupart des instruments seront visibles dans les salles du musée. Et puis, pour l'aspect festif et la grande rencontre du samedi et du dimanche, il y aura donc les instruments sélectionnés en finale et demi-finale qui seront à la Philharmonie. Et à la fin après la remise des prix, il y aura un moment d'échange avec le public qui pourront voir de près les instruments finalistes.
Et les luthiers vivants. Voilà, ça c'est très important.
Comme les compositeurs vivants.
Exactement.
Alors, il y a 2 ans, c'était le violoncelle. Quel luthier a été récompensé et quelle école de lutherie il y a 2 ans?
Ah oui, alors écoutez, j'ai déjà oublié parce que finalement un concours, ça se lisse avec les années, mais il y avait un niveau exceptionnel. Il y avait un Allemand, un couple d'Allemands de Berlin qui avait gagné le premier prix en violoncelle. Il y avait, je me souviens, le deuxième prix des écoles, c'était l'école de Mirecourt en France, donc on n'est pas Chauvin, mais quand même. Il y avait une école suisse aussi. Il y avait un très très beau niveau. C'était très très enthousiasmant, vraiment.
Ben cela sera sans doute très enthousiasmant cette année encore.
Et grâce aussi au public, on a fait un crowdfunding pour cette opération. Et grâce à cela, l'instrument de l'école de lutherie qui sera primé, premier prix, la meilleure, on va dire, copie ou la meilleure inspiration du Sarrasate, va ensuite intégrer le musée de la musique. Ça sera un instrument jouable qui fera partie de la collection des instruments neufs et jouables en copie de la collection du musée.
Voilà, il va tout de suite entrer au patrimoine. Donc,
exactement.
Merci infiniment. On va se quitter avec du violoncelle, un hommage à la première édition du concours, avec votre ensemble Cello 8, ensemble soutenu, créé par Talent et Violoncelle. Talent et Violoncelle qui est donc à l'initiative de ce concours avec le Musée de la Musique à Paris. Merci beaucoup Jean-Philippe Échard et Raphaël Pidoux.
Merci. Merci.
Le Lied d'Inart de Schubert, arrangé pour ensemble de violoncelle, joué par l'ensemble Cello 8 de Raphaël Pidoux. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Bertrand Dorini pour sa réalisation. Lundi soir, nous serons en compagnie de la chef brésilienne Simone Menezes. Mais tout de suite, je vous invite à prolonger cette soirée sur Radio Classique avec Francis Drezel.